RCF. Bonjour à tous, un 18-19 local en cette période de vacances en ce mercredi 27 décembre. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas RCF Cœur de Champagne, nous avons bien sûr nos informations locales et diocésaines. On va retrouver bien sûr nos chroniqueurs habituels et le premier d'entre eux le mercredi.
C'est Robert Reverger avec un mot à nous présenter. Aujourd'hui on va parler de formidable Jean-Pierre.
Le mot formidable et
c'est
semaine
un mot qui vous est cher.
Oui, c'est une semaine formidable que nous vivons pendant cette période de vacances. Kylian, on vous retrouvera peut-être ce soir, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour cette page météo du 27 décembre. En tout cas, on en parlera.
Jean-Pierre, je me permets, j'ai une question. Parce qu'on n'était pas avec vous hier, mais qu'est-ce que vous avez eu sous le sapin le 25 décembre, vous ?
Eh bien, sous le sapin le 25 décembre, j'ai eu énormément de chocolat parce que ici, j'ai été très, très gâté à la radio.
Vous êtes gourmand.
Alexis, Kylian, tout ça, ils m'ont emmené beaucoup de chocolat. Et puis, j'ai eu aussi moi-même une montre. Parce que l'ancienne montre que j'avais, je peux vous le dire, je n'ai pas un secret, tous les trucs sont partis et on ne va plus les heures. Donc,
un très beau cadeau, Jean-Pierre. Vous avez raison de faire plaisir.
Un cadeau intéressant, c'était fonctionnel. Et vous, Alexis ?
Alors, moi, sous le sapin, j'ai une belle sacoche pour transporter mes affaires. Vous savez, un attach case, comme on pourrait dire,
bah oui,
avec tous les documents, etc.
Pour un journaliste, c'est toujours bien.
C'est toujours pratique, tout à fait. Voilà.
Et un peigne, non ?
Et un peigne. Vous savez qu'on fait des brosses pour les chauves, Thierry.
Alors, tout de suite, Robert Reverger, il est avec nous. Robert Reverger, bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre Benoît.
Quel est le mot que vous avez choisi aujourd'hui ?
Eh bien, il s'agit d'un mot, d'un adjectif plus précisément que nous employons tous les jours. Peut-être vous aussi, comme la plupart des mots dont nous écrirons l'histoire, il s'agit du mot formidable.
Le mot formidable. Un mot d'ailleurs, Robert, qui a de nombreux synonymes.
Oui, on en compte environ une soixantaine avec bien sûr des nuances, comme pour tous les synonymes.
Alors par exemple,
ce que l'on trouve aujourd'hui formidable, ce peut être plus précisément admirable, étonnant, magnifique, surprenant, fabuleux, phénoménal, enfin je ne peux pas les citer tous évidemment. Et aujourd'hui, les jeunes disent plutôt « c'est super, c'est terrible » ou même « c'est mortel ».
Ce mot « formidable » a toutefois un sens plutôt positif, hein, on peut le dire.
Généralement, oui, nous trouvons couramment formidable ce qui provoque en nous du plaisir, aussi bien d'ailleurs physiquement qu'intellectuellement ou moralement, mais « formidable » a quelques synonymes, disons négatifs, comme « épouvantable »,« effrayant »,« monstrueux », mais aussi, on peut dire, un sens « neutre », comme très étonnant ou très surprenant. Mais quel que soit le synonyme, il marque toujours l'intensité d'une forte impression, soit de crainte, de peur, ou à l'inverse, d'admiration ou de plaisir.
Alors au fait, ça c'est intéressant, quelle est l'étymologie de formidable ?
Eh bien, formidable vient du latin formidabilis et du verbe formidare qui signifie effrayant, redoutable, qui fait peur. Alors, à l'origine, il qualifiait un épouvantail. Mais le sens des mots évoluant dans toutes les langues, bien sûr, on est passé ensuite à l'idée de terreur, autrement dit d'un objet destiné à faire peur aux oiseaux, pas bien méchant cet objet, à celui d'une vraie peur panique.
C'est donc quand ce mot, formidable, est apparu dans la langue française.
Oui, il est apparu au XIVe siècle.
Alors quel sens avait-il alors à ce moment-là ?
Alors, il avait alors le sens latin de terrifiant, sens d'ailleurs qu'il conservera jusqu'au XIXe siècle. Par exemple, Racine dans Phèdre, à propos du temple de Trézène, fait dire à Hippolyte, qui parlait à sa maîtresse Aricie, je le cite, « Aux portes de Trézène et parmi ses tombeaux, des princes de Maras, antique sépulture, est un temple sacré, formidable au parjure. »
Hippolyte rappelle ainsi à Aricie un certain nombre de renseignements, de données.
Oui, il rappelle que ce temple est formidable parce que tout homme qui s'est parjuré et qui pénètre dans le temple meurt sur le champ d'apoplexie.
Alors, on était à cette époque-là au XVIIe siècle. Alors, est-ce que vous avez, Robert Reverger, un autre exemple plus près de nous ?
Oui, par exemple, on peut citer au XIXe siècle le célèbre historien Jules Michelet, qui parle d'un lieu sinistre et formidable.
Alors de quel lieu s'agissait-il, lieu sinistre et formidable ?
Eh bien, il s'agit du port militaire de Brest. Cet exemple montre bien combien le sens du mot formidable a évolué. Si aujourd'hui, Vous disiez Brest est formidable, vous voudriez dire
Je veux dire que j'y suis beaucoup plus, que je trouve Brest formidable, que j'adore cette ville.
Oui, ou malgré ce que dit Jacques Prévert d'ailleurs, il ne pleut pas sans cesse.
Que s'est-il donc passé pour qu'un endroit formidable soit devenu charmant?
Eh bien, au XIXe siècle, on dit, au sens premier du mot, une armée formidable, un coup formidable. Or, pour inspirer à l'ennemi une peur la plus intense possible, il faut que l'armée ou le coup soit les plus puissants possibles. Alors, l'idée de puissance se substitue alors à celle d'effroi, puis de l'intensité de la peur, on est conduit à l'idée de taille surprenante, étonnante, renversante et enfin, au sens actuel, bien sûr, le plus fréquent.
D'épatant, d'étonnant, c'est
oui,
ce que vous voulez dire.
Oui, bien sûr, sans perdre de vue qu'au sens premier, si vous avez été épaté, c'est qu'on vous a aplati le nez. Vous ne pouvez pas trouver épatante une jeune fille, on est retroussé.
Et si je suis étonné?
Eh bien, si vous êtes étonné, c'est encore pire. Toujours au sens premier, c'est que vous avez été frappé par la foudre, vous avez été étonné, tonnerre.
Comme quoi l'origine et l'évolution des mots, et c'est bien que nous en parlions avec vous aujourd'hui, peuvent être instructives et amusantes. Pour terminer, auriez-vous un exemple plus récent de l'emploi du mot formidable?
Oui, rappelez-vous, vous l'avez certainement pas oublié, en 2005, Monsieur Raffarin démissionne de son poste de Premier ministre sous la présidence de Monsieur Chirac.
Et d'ailleurs, il est remplacé par Monsieur de Villepin.
En effet, Messieurs de Villepin et Sarkozy.
Ce dernier alors, pour ceux qui l'auraient oublié, était ministre de l'Intérieur.
Exact. Messieurs de Villepin et Sarkozy donc disent alors qu'ils ont trouvé M. Raffarin formidable pendant son mandat à Matignon.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire?
Eh bien alors, à l'évidence, dans la bouche de ces deux hauts personnages de la République, ce mot à cette époque ne pouvait être qu'un compliment, bien sûr, qu'un signe d'admiration.
Ah oui, je vois. On peut lire aussi au second degré avec vous.
Ah, je
Robert.
Ne sais pas.
Oui, ça,
je ne sais
au
pas.
Premier degré. Alors, en conclusion,
eh bien,
qu'est-ce
conclusion,
qu'on peut dire,
Robert? En conclusion, je me contenterai de citer Teilhard de Chardin, qui résume bien le double sens de ce mot lorsqu'il dit « L'humanité est formidable, elle est capable du pire ». Comme du meilleur.
Merci Robert Verger qui est avec nous toutes les semaines, le mercredi avec des rediffusions en semaine et nous en sommes inquiétés. C'est plutôt le jeudi aux alentours de 11h50 en fin de matinée et le dimanche aux alentours de 12h50 ou de 11h50 le dimanche. On aura l'occasion d'y revenir. La semaine prochaine, c'est quoi?
Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons d'un mot très à la mode. Du mot diplomatie.
Merci Robert Auverger, bonne semaine, à la semaine prochaine.
Merci.
Au revoir.
Voilà, c'était la cantate de Noël de Jean-Sébastien Bach qui nous accompagne dans cette période entre Noël et 1er janvier. Tout de suite, on retrouve notre invité du mercredi en tant que maire. Et en ce mercredi 27 décembre, c'est Christophe Heller, maire de Villers-sur-Bar, dans le département des Ardennes, qui est avec nous. Christophe Heller, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Alors, vous le savez, notre émission a pour but de connaître votre commune, de vous connaître, de vous encourager, parce que vous avez un certain nombre de réalisations. Est-ce que vous pouvez nous présenter, de façon très générale, Villers-sur-Bar, dans les Ardennes, où ça se trouve, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, et puis combien d'habitants?
Alors, nous, comme vous l'avez dit, nous sommes situés dans les Ardennes. Nous sommes à 5 km de Donchery, sur l'axe Charleville-Sedan. On est à 20 km de Charleville et à peu près à 7 km de Sedan. Nous comptons 250 habitants. Nous sommes dans la vallée de la Barre, qui se jette justement dans la Meuse, dans notre village. Et nous faisons partie de la communauté d'agglo d'Ardennes Métropole.
Alors évidemment, vous-même, vous êtes maire depuis plusieurs années, hein, je crois, Christophe Heller.
Oui, c'est ça. Je suis maire depuis 2013. Je suis au conseil municipal depuis 2008, où j'étais premier adjoint. Et puis 2013, on a dû refaire une élection anticipée. Donc j'ai terminé le mandat sur un an de maire. Et puis j'ai enchaîné depuis 2014. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis maire de la commune de Villers-sur-Bar.
Alors justement, Christophe Heller, comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui, Villers-sur-Bar? Les activités, les habitants, des retraités, des jeunes, des moins jeunes qui vont travailler à Sedan ou travailler à Donchery ou à Charleville?
Mais en fait, c'est tout à fait ça. On est un village qui constitue à peu près d'un tiers de retraités, on va dire, qui sont souvent issus de familles du village ou des petits villages aux alentours, hein, qui sont ancrés. On a encore 4 fermes et un artisan, on va dire, qui travaille pour les agriculteurs. On a quelques artisans aussi en maçonnerie. Et puis le reste, les 2/3, on va dire, c'est des actifs qui, effectivement, se partagent le trajet. Parce que souvent, l'homme ou la femme travaille soit à Sedan, soit à Charleville. Et comme on est dans un axe vraiment... centrale, donc les couples s'installent à Villers-sur-Bar, je pense, pour ces raisons-là.
Alors, le maire, dans un village, il est souvent sollicité. Vous connaissez tout le monde, hein, Christophe Heller, vous connaissez tout le monde. Ouais. Alors, il y a beaucoup de maires quand même qui hésitent maintenant à se lancer, parce qu'il y a quand même pas mal de responsabilités, ils hésitent quand même. Vous avez pris la charge déjà presque depuis 9-10 ans. Mais vous aimez cette mission, cette fonction?
Oui, c'est sûr qu'au départ, ça m'arrive un petit peu comme ça, c'est que j'étais pas spécialement parti pour être maire. Après, c'est arrivé par un concours de circonstances. Après, oui, il faut aimer les gens et aimer aider les gens surtout. Surtout dans un petit village comme le nôtre, on n'est pas là pour développer l'économie ou on laisse ça, on va dire, aux instances de Ardennes Métropole, mais on est là pour faciliter la vie des gens et puis leur apporter un petit confort les moments où ils passent dans le village. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un engagement, parce que en dessous de chaque signature, il y a quand même le fait de s'engager en son propre nom. Et puis moi, ce qui me préoccupe, c'est de ne pas justement de laisser on va dire, d'embûches pour les générations qui arriveront derrière nous. Quoi.
Préparer l'avenir et pas voilà, mettre des problèmes sous le tapis. Alors justement, les communautés de communes, et en particulier les agglomérations comme Ardennes Métropole, est-ce qu'ils ont modifié votre rôle? Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'être un peu encore le patron chez vous? C'est-à-dire que le maire reste quand même... l'interlocuteur, le premier de base qu'on rencontre?
Écoutez, non, je pense que après c'est pas le fait des intercommunalités, hein, c'est le fait du législateur qui a décidé de justement d'enlever toutes les compétences de la mairie et de les donner soit à d'autres organismes ou alors surtout aux communautés de communes. Et en fait, non, clairement, on n'est plus trop maître de notre destin. On n'a plus l'eau, enfin, on n'a plus d'eau, on a toujours de l'eau, mais bon, on n'a plus la compétence de l'eau. L'urbanisme, on le cède à la commune d'Aglo. Voilà, il y a beaucoup de choses comme
mais
ça.
Quand même, monsieur le maire, je vous interromps, mais on a eu d'autres maires qui ont dit, bon, d'accord, on nous a pris un certain nombre de responsabilités, mais il y a certaines décisions qui ne peuvent pas être prises si on n'est pas d'accord. Je sais pas, vous n'avez pas un pouvoir de veto, mais vous pouvez dire, voilà, je suis quand même... vous avez quand même un rôle important.
Oui, il en reste plus beaucoup, honnêtement. Après, bon, quand je vous dis qu'on n'a plus de compétences, on reste quand même dans la communauté d'Aglo et on fait partie des commissions. Et donc, notre rôle, il est là. C'est dans les commissions, c'est là qu'il faut faire le travail qu'on ne peut plus faire dans notre commune. Mais ah oui, effectivement, il nous reste toujours une part de, on va dire, de...
responsabilité.
De responsabilité. Sauf qu'en fait, la configuration d'Ardennes Métropole fait que on est entre deux grosses villes qui forcément ont beaucoup plus d'intérêts ou de choses à faire que nous. Et nous, les petites communes de 200, en général, on est à peu près entre 200 et 500-600 habitants. Et nous, on n'a pas du tout les mêmes intérêts que les deux grosses villes. Et après, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que la configuration d'Ardennes Métropole est pas par rapport aux crêtes ardennaises, où là j'ai l'impression quand même que les communes sont à peu près plus de la même taille. Quoi.
Alors, parce que le temps passe forcément très vite avec vous, Christopher, on aura l'occasion de vous retrouver. Je suis obligé d'aller un petit peu plus vite parce que, est-ce que vous avez des projets, même au niveau de la commune, en cours, à court terme, moyen terme, long terme, quelque chose que vous êtes en train de mettre sur les rails en ce moment?
Alors on a terminé des garages qu'on a créés nous-mêmes pour pouvoir les mettre en location. Donc là, ils sont mis en location depuis l'année dernière. On a notre salle des fêtes qui vient de sortir de terre. Mais bon, on a un petit litige en ce qui concerne la fête sceptique. Donc on a bon espoir de l'ouvrir dans fin d'année ou début d'année prochaine. C'est un gros projet qui a été aussi financé par l'Europe et la région. Et puis, également, on va réhabiliter l'ancienne mairie qui se trouve à l'étage pour faire une location pour accueillir une famille dans notre village.
Bon, il nous reste à peu près une minute, Christophe Heller. Compatibilité entre maire et vie professionnelle, maire et vie familiale. Comment ça s'arrange tout ça?
Bah écoutez, ça va pas trop mal, oui, on essaye quand même de pouvoir lier les deux. Bon, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est compréhensive, et puis ça peut être des semaines assez chargées.
Des semaines chargées, oui.
Et puis à des moments un peu plus, mais bon, globalement, ça se gère bien.
Ouais. Alors, on se quitte simplement par la question qu'on pose à chaque fois, à tous les maires. Est-ce que vous êtes un maire heureux? Moi, je sens que vous êtes heureux quand même. Il nous reste 15 secondes.
Bien sûr, je suis heureux. Mais dans ma vie, comme dans mon rôle
c'est
de maire.
C'est votre tempérament.
Oui, oui. Puis bon, écoutez, on est là pour... On ne nous a pas poussé. Hein.
Merci en tout cas, Christophe Heller, maire de Villers-sur-Bar, d'avoir été avec nous. Et très bonne journée. À bientôt sur RCF.
Merci, Benoît.
Au revoir.
Au revoir.
Ça me fait toujours plaisir, Jean-Pierre, quand vous nous emmenez à Villers-sur-Bar. Vous savez que je suis attaché à cette commune ardennaise.
Absolument, je sais que vous avez passé les meilleures années lorsque vous étiez en culotte courte du côté de Pont-à-Bar, du côté de Chalandrier-l'Air et de Flies et de la route de Sedan. Mais ça évoque toujours beaucoup d'émotions en vous.
Bah effectivement, la vallée de la Barre, Jean-Pierre, vous savez, Villers-sur-Bar, Cheveuges, Saint-Aignan, Chémery, Chéry, etc. Toutes ces communes, effectivement, sont très chères à mon cœur pour y avoir passé, comme vous l'avez dit, une bonne partie de ma vie étant enfant et puis de ma scolarité aussi. C'est là-bas que j'ai appris les bases avant de venir poser ma voix au micro de RCF France Ardennes.
En attendant, direction Reims avec Claude Ruiz, qui va nous faire voyager dans l'histoire avec les fêtes de Noël.
On pourrait dire que l'on regarde sur le monde, même si on est sur une chronique un petit peu différente. Claude Ruiz est avec nous, bonjour.
Bonjour.
On va parler des fêtes aujourd'hui, en cette période de fêtes de fin d'année, évidemment, période de glorification qui met en évidence des lieux spirituels, soit la résidence du ou des dieux, ou bien des lieux symboliques. Ces lieux remarquables ont-ils des points communs, Claude Ruiz?
Oui, ben vous avez raison d'insister sur le fait que justement on a des points communs, hein, puisqu'il y a des fêtes un petit peu partout, et puis un peu dans toutes les religions. Noël et les fêtes de fin d'année, c'est... quelque chose de remarquable. C'est l'occasion de faire ressortir, bien entendu, toutes ces proximités. Ces lieux ont tous des spécificités. Ils sont tous particuliers, bien entendu. Il faudrait les analyser les uns après les autres. Mais dans les grandes catégories, il est possible de distinguer les lieux où habitent les dieux, la plupart du temps, parce qu'il y a toujours eu des lieux remarquables, souvent liés à la topographie, mais pas seulement. Des lieux d'enracinement des pratiques religieuses, à l'image des villes. Et puis, bien entendu, les monuments les plus signifiants, des éléments presque topographiques dans lesquels on va retrouver ces fêtes. Tous ces lieux sont des lieux où les pratiquants expriment, en fin de compte, leur spiritualité.
Est-ce qu'il y a des sites géographiques préférentiels, Claude ?
Souvent, bien sûr, comme tout le monde, mais nous, on est aussi sensibles. Je veux dire, chacun est sensible à des sites remarquables. Donc, dans l'histoire, les sociétés ont mis en avant ces sites remarquables, pittoresques, exceptionnels. En premier lieu, c'est souvent la montagne. La montagne, c'est la montagne des dieux. Vous le savez, c'était le lieu, le refuge, souvent dans l'histoire des sociétés des dieux, par rapport aux espaces plans. Alors, on cite souvent dans la civilisation occidentale le mont Olympe, demeure des dieux, là, des dieux grecs, mais en réalité, de tous les dieux. C'est presque une évidence. On dit grimper sur l'Olympe, ça veut dire se rapprocher des dieux. On est bien dans ce cadre-là. Et c'est surtout un monde physique, un monde de roches qui domine la mer. Je vous rappelle que le mont Olympe est à 2917 mètres pour son point le plus haut, au-dessus du golfe de Thessalonique. Donc, on va dire qu'il domine la Grèce. On y a projeté des dieux grecs avec des vies, vous le savez, très tumultueuses.
Puisque vous êtes arrêté notamment sur le mont Olympe, Claude Ruiz, le mont Olympe devient un espace de lutte.
Oui, c'est un espace agité. C'est un espace où on reproduit les combats, l'histoire, les combats. Je vous rappelle des rois titans, ces rois qui dévorent leurs enfants. Mais un se cache, c'est Zeus. À l'âge adulte, Zeus libère ses frères et ses sœurs et va vaincre les titans. Donc, vous le voyez, c'est un lieu de toujours de combats très agités. Et l'Olympe devient une montagne un peu mythique, une représentation métaphorique du pouvoir et de l'autorité.
Est-ce que le mont Olympe a toujours eu cette vocation à être une demeure des dieux, Claude Ruiz ?
Alors, non, on peut penser que les poèmes épiques d'Homère, que l'on connaît ou dont on se souvient, au moins le titre, l'Iliade et l'Odyssée, même si on n'a pas toujours gardé en mémoire l'histoire que souvent on a appris donc à l'école, de façon continue, de façon ponctuelle, ne donnent que peu d'indices. Mais ces montagnes sont majestueuses, capables d'inspirer un espoir, poussent à une spiritualité et sans jeu de mots à une élévation, puisqu'on est dans un milieu physique, quelque chose qui est plus grand que nous et plus haut. C'est aujourd'hui souvent des lieux de tourisme, vous le savez. On ne peut communier avec les dieux que par l'esprit, et comme on veut se rapprocher des dieux, en réalité, on va dans ces lieux qui, pendant longtemps, ont été mis en évidence.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples que le mont Olympe de montagnes qui sont devenues des résidences pour des dieux ?
Alors, d'autres montagnes remarquables, oui, un peu partout dans le monde. Même à la limite, toutes les religions, on retrouverait des lieux particuliers qui sont souvent des lieux élevés et montagnards. On peut prendre le cas de territoires qui sont plus simples à comprendre, plus simples parce qu'ils sont gigantesques, comme l'Australie. Et en Australie, vous avez, en gros, presque en plein centre, centre-sud, un mont qui est en réalité un élément granitique qui est sorti de terre, qui a été mis en évidence par l'érosion, qui s'appelle le mont Uluru. Alors c'est quelque chose d'allongé, comme une sorte de gigantesque dos de baleine, si vous voulez, qui est représenté, où il y a très peu de végétation juste au pied. Et donc là, dans ces territoires donc nord de l'Australie, c'est quand même quelque chose d'assez gigantesque. Ça fait 350 mètres de haut sur 3 km, vous le voyez, c'est un gros caillou. Et ce célèbre monolithe, qui est devenu un élément touristique, en plus il est d'une couleur férique très rouge, c'est le lieu de nombreuses légendes du temps du rêve des aborigènes. C'est-à-dire c'est un lieu sacré, qu'on a un petit peu marginalisé longtemps, oui, parce qu'il est dans le désert et que personne ne va le chercher, mais c'est une sorte d'iceberg rouge au milieu d'une étendue de sable, et donc c'est quelque chose qui est quand même remarquable, et donc divinisé.
Ce mont Uluru que vous nous présentez, Claude Ruiz, qu'est-ce qu'il représente pour les aborigènes ?
Les populations, vous le savez, sont très peu nombreuses. Elles se sont installées vraisemblablement il y a autour de 40 000 ans, d'après les spécialistes, et ils ont un système de croyances nommé le temps du rêve. Donc vous voyez, c'est quelque chose un petit peu aussi de mythique, de rêver. Ils ont une sorte d'âge d'or et ils reviennent ou ils mettent en scène toujours cet âge d'or ancien qu'on a du mal. Eux, ils ont du mal à le définir et nous, on a du mal aussi à avoir des repères pour le comprendre. Mais c'est un système de règles, de rituels mis en place par les ancêtres. Alors vous le voyez, dans lequel on mélange la vie des hommes et la vie des plantes et des animaux. Donc en réalité, tout ceci, on crée des paysages spécifiques. spécifique, désertique. Et Uluru, c'est une construction à la fois, si vous voulez, physique, qui existe, qu'on peut visiter, mais aussi qui est intégrée dans la pensée. C'est ça qui est relativement complexe, parce qu'il n'y a pas de texte pour nous dire comment on intègre, en fin de compte, ces dieux. Alors aujourd'hui, c'est un parc national sous la gestion donc des Anangu, qui sont des propriétaires coutumiers et qui protègent, en fin de compte, ce lieu, et de plus en plus, puisqu'il est devenu attractif.
Comment ce lieu est conservé désormais alors ?
Il y a des trajets rituels qui sont transmis pour les sociétés aborigènes. Comme partout, je dirais la transmission, c'est par la répétition. Et c'est un lieu relativement complexe, mais il est relativement protégé parce qu'il est loin de tout. Donc on peut dire que là, c'est un lieu divin, mais au centre d'un désert, quoi, un petit peu.
Merci Claude Ruiz, dans cette période de fête, de nous avoir emmenés sur les différents monts conservés et surtout glorifiés, comme on l'a dit au début de cette chronique. À très bientôt Claude Ruiz.
Au revoir.
Voilà, c'était Vivaldi dans ce magazine local que nous avons retrouvé. On a évoqué l'histoire avec Claude Ruiz. Et vous le savez, Patrick Demu est historien, universitaire. Il connaît parfaitement cette histoire de Noël au cours en particulier du Moyen-Âge. Il est avec nous, Patrick Demu, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous sommes dans cette période de Noël. Tout le monde parle de la crèche. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans l'histoire d'où vient la crèche ? Est-ce que c'est très loin ? Est-ce que c'est récent ? D'où ça vient, Patrick Demu ?
Alors, c'est une belle histoire. En fait, nous célébrons cette année le 8e centenaire de la première crèche vivante instaurée par Saint François d'Assise. Mais remontons plus loin, bien évidemment. C'est Saint Luc qui parle de la crèche, parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtellerie, et c'est lui qui parle donc de cet enfant qui va naître dans une mangeoire, et il parle aussi des bergers qui gardent les troupeaux. Alors nous avons déjà la crèche, la mangeoire, Joseph, Marie, les bergers, les moutons. Alors il nous manque l'âne et le bœuf, mais l'âne et le bœuf, lui, l'évangile n'en parle pas, il découle d'une prophétie d'Isaïe, livre 1, chapitre 3, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Et c'est ce texte-là qui a fixé finalement cette trilogie bœuf, âne, mouton que nous voyons dans nos crèches d'aujourd'hui. Alors, on allait en pèlerinage dans les premiers siècles à Bethléem pour vénérer les souvenirs de cette mangeoire sacrée. Bon, ensuite, les pèlerinages ont été un peu plus compliqués, mais il y avait à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, des reliques de la crèche que l'on avait ramenées. qui explique que dès le IVe siècle, dans l'art paléochrétien, l'image de la crèche est connue. Elle se répand dans les sculptures. On en retrouve aussi d'ailleurs dans des sculptures romanes, dans des mosaïques. Il y a que l'image de la crèche, cette image que nous connaissons bien encore, s'est répandue avant d'être mise en scène. Alors la mise en scène, elle apparaît au Moyen-Âge déjà sous forme de mystère. Vous savez, ces drames sacrés que l'on représente devant les parvis des cathédrales, des églises. Et puis alors, il y a l'intervention de Saint François. Saint François qui fonde, vous savez, l'ordre des frères mineurs, donc qui est rempli de dévotion pour l'enfant Jésus dans sa faiblesse, bon, par ailleurs aussi dans la souffrance de sa passion. Et cette dévotion pour l'enfant, il la manifeste en ayant l'idée à Greccio, c'est un petit village pas loin d'Assise, en Ombrie, en 1223, donc il y a 800 ans cette année, d'organiser une crèche. Alors je vous cite, si vous voulez bien, la vie de Saint François que raconte l'un de ses premiers biographes, que Thomas de Celano, ça a été écrit très peu de temps après les événements. Une quinzaine de jours avant Noël, François fit appeler un ami. Si tu veux bien, lui dit-il, célébrons à Greccio la prochaine fête du Seigneur. Pars dès maintenant et occupe-toi des préparatifs que je vais t'indiquer. Je veux évoquer en effet le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu'il endura dès son enfance. Je veux le voir de mes yeux de chair tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne. L'ami fidèle courut en toute hâte préparer au village de Greccio ce qu'avait demandé le saint. Le jour de joie arriva, le temps de l'allégresse commença. On convoqua les frères de plusieurs couvents des environs, hommes et femmes, les gens du pays, l'âme en fait, préparèrent chacun selon ses possibilités des torches et des cierges pour rendre lumineuse cette nuit qui vit se lever l'astre étincelant éclairant tous les siècles. En arrivant, le saint vit que tout était prêt et se réjouit fort. On avait apporté une mangeoire et du foin, on avait amené un âne et un bœuf. Là, vraiment, la simplicité était à l'honneur, c'était le triomphe de la pauvreté. La meilleure leçon d'humilité. Greccio était devenu un nouveau Bethléem. La nuit se fit aussi lumineuse que le jour, aussi délicieuse pour les animaux que pour les hommes, les foules à courir, etc. Bon, ce texte est un petit peu long.
Donc, c'est le lancement, finalement, de la première crèche.
C'est le lancement de la crèche. Alors, le développement de l'ordre franciscain, la spiritualité franciscaine, explique que, progressivement, cet usage de crèche vivante, hein, s'est répandu. Et puis, dès le XIIIe siècle aussi, apparurent des statuettes mobiles, mais de grande taille, puisque les premières statues de crèche, dans la foulée de cette crèche de Greccio, étaient destinées aux églises, donc telles que nous en voyons dans nos églises aujourd'hui, ou la cathédrale, par exemple, où elles sont quasiment grandeur nature. Hein. Alors, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les crèches monumentales quittent les églises pour s'installer à la cour ou dans les foyers de la noblesse ou de la haute bourgeoisie, et nous connaissons ces crèches baroques, hein, avec des vêtements tout à fait extraordinaires, et ces décors qui marquent l'Italie du XVIIIe siècle. Et puis la dernière étape, celle qui nous concerne en fait, nous, aujourd'hui, c'est la fin du XVIIIe, et particulièrement la Révolution française, parce que celle-ci interdit, vous savez, l'exercice public du culte, ferme même pendant un moment les églises, et cette dévotion que l'on avait au moment de Noël, qui est un moment extraordinaire, c'est retrouvé dans la maison. Et la crèche que l'on ne pouvait pas voir dans l'église, ou le mystère que l'on ne pouvait pas voir sur la place de l'église, ou la crèche vivante, etc., eh bien, se transforme en ces petits personnages.
Et c'est là que commence la vie des santons.
Et voilà. Et les santons arrivent. Et ça, c'est la Provence. Hein, on le voit bien aujourd'hui encore. Les Provençaux se tournent vers une pratique de foi en famille, fait rentrer la crèche dans la maison. Et les santons, nous les connaissons bien.
Je vous interromps un peu, Patrick, oui, Demuy, parce que nous avons l'idée, et nous avons raison, de cette crèche, de ses origines, de ses santons provençaux. Mais quand on regarde le monde, on s'aperçoit maintenant, avec les transports, avec les reportages, qu'il y a dans le monde entier des centaines de modèles de crèches très différents, mais qui s'adaptent aux différents, oui, pays. Enfin, on voit des crèches du Venezuela, des crèches de pays d'Amérique du Sud, etc., etc.
Mais oui, et ça, c'est ça qui est beau dans cette histoire, hein, c'est que la crèche montre bien que la naissance du Christ est un phénomène qui touche toute l'humanité et qui est de tous les temps. Les santons de Provence montrent les différents métiers, et puis effectivement, comme vous le dites si bien, nous avons des crèches avec représentants des différentes races de l'humanité, car la chrétienté s'est répandue par toute la terre.
Cette tradition des crèches, elle a toujours, toujours existé, même encore très, très récemment. Elle existe toujours, mais c'est vrai, on ne va pas aborder la question aujourd'hui. Dans l'espace public, maintenant, les crèches sont plutôt quand même mises un petit peu de côté, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que dans l'espace public, on peut en avoir une ou deux, mais c'est quand même aujourd'hui assez contesté.
Malheureusement, il y a des personnalités intolérantes, négationnistes, etc., qui ne veulent pas voir quelles sont les racines profondes de notre culture, que beaucoup malheureusement ignorent, contestent. Bon, je dirais qu'ils sont plus ignorants que franchement mauvais. Mais enfin, tout de même, c'est tout à fait regrettable. Surtout que ce message, il montre la fragilité de l'enfance, la beauté de la naissance. Nous avons tellement besoin aujourd'hui où les enfants ne sont plus respectés comme ils le devraient.
Oui, on a beaucoup de débats autour, d'ailleurs on a l'occasion d'en parler, autour de la laïcité aujourd'hui, mais il est vrai que, je ne sais pas si je peux vous poser une question, Patrick Demuy, un homme politique un jour a dit « la République est laïque, mais la France est catholique ». D'une certaine façon, c'est un peu la différence entre les deux dans l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire de France, elle démarre pas forcément à la Révolution. Il y a eu quand même quelque chose avant, dont il faudrait peut-être un peu tenir compte.
Nous sommes bien placés à Reims pour nous souvenir du baptême de Clovis, tout de même.
Donc quand on célèbre la mémoire d'une nation, il y a bien sûr les deux. Il y a la République, il y a la Révolution, mais il y a aussi ce qui s'est passé avant et ce qui continue de se passer maintenant. Enfin bon, on va quand même pas disserter.
Et Clovis était baptisé à Noël, nous dit-on.
Et oui, et vous le rappelez souvent. Merci en tout cas Patrick Demuy, on vous souhaite un très très beau fête de Noël et on vous souhaite déjà par avance une très bonne année 2024, mais on aura l'occasion de vous retrouver d'ici là et à de nombreuses reprises dans le patrimoine rémois et puis dans d'autres émissions. Merci Patrick Demuy, à très bientôt Patrick.
Au revoir.
Chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant,
dans les yeux d'un enfant,
c'est Noël. Chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend,
chaque fois qu'on s'entend,
c'est Noël. Chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains, c'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour.
Voilà, c'était John Littleton, un chanteur que vous appréciez particulièrement, Alexis.
Mais effectivement, vous aviez posé la question à Arnaud Valadon dans le magazine du week-end samedi.
Il venait à Reims régulièrement, puisque on l'a vu, mais on l'a accueilli même à la radio il y a quelques années.
Oui,
il était en parenté avec Jean Diblick, qu'on a bien connu, qui était un historien connu et qui faisait des émissions ici.
C'est une musique dont on ne se lasse pas en cette période de fête de Noël, évidemment.
Et puis, vous évoquiez les Ardennes et Villers-sur-le-Bar. Eh bien, je vous propose, en ce mercredi 27 décembre, de reprendre le chemin des Ardennes avec le maire de Sedan, qu'on a déjà écouté la semaine dernière, Didier Herbillon, qui est avec nous. Didier Herbillon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors il faut dire qu'en ce moment, les planètes sont plutôt alignées pour Sedan, parce que tout récemment, on a appris, d'après les chiffres de recensement démographique, que pour cette année, il y avait encore une hausse d'habitants à Sedan. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle, surtout que ça confirme l'augmentation de l'année précédente, plus de 300 habitants supplémentaires, 220 cette année encore, donc ça fait une belle augmentation sur les deux dernières années, donc on s'en félicite évidemment, parce que comme vous le savez, il n'y a de richesse que d'hommes. Et quand une ville se redéploie, comme nous le faisons actuellement, après une période de vache maigre, hein, vous savez que la démographie était en berne depuis plus de 50 ans sur Sedan, ça fait du bien de voir que aujourd'hui la tendance s'inverse. Alors certes, c'est long, parce que juger de l'augmentation démographique, c'est toujours sur le temps long que ça se fait, et on n'a pas gagné pour autant, hein, il faut rester prudent, mais c'est quand même très encourageant.
Alors il faut dire aussi que on en avait parlé, on va y revenir, il y a le château fort, mais il y a aussi des distinctions pour le maire de Sedan lui-même, puisque vous avez été désigné, élu comme maire du Grand Est pour l'année 2023.
Oui, oui, c'est vrai, ça fait toujours plaisir malgré tout. C'était une distinction que je n'attendais pas, mais qui montre au fond que le travail que nous faisons avec mes équipes, commence à être regardé et positivement apprécié. Ça veut dire aussi que la ville est regardée dans son évolution actuelle et que ça intéresse le jury qui était composé d'une douzaine de journalistes, dont des journalistes parisiens, avec des regards extérieurs. Donc ça fait plaisir, mais c'est pas le maire seul qui est récompensé. Je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que seul on n'est pas grand-chose.
Alors il faut dire, on va y revenir, parce que ça a été un moment très important il y a quelques mois, le fait que le château fort de Sedan a été primé comme monument préféré des Français. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui, c'est exceptionnel, et ça l'est aussi au-delà du titre et de la distinction, ça l'est aussi en termes de retombées économiques. Le château de Sedan aujourd'hui va terminer l'année avec plus de 140 000 visiteurs sur son parcours de visite, ce qui est tout à fait exceptionnel, hein, 140 000 payants bien sûr. Donc il y a des emplois qui se créent, il y a évidemment nos commerces qui en profitent, c'est important. Et puis ça tombe excellemment bien, l'année prochaine nous allons fêter les 600 ans du château fort. Donc vous voyez, là encore il y a une forme d'alignement des planètes qui va nous aider à magnifier encore plus cet événement. Donc c'est une belle opération. Et puis tout récemment, vous avez vu qu'on avait obtenu aussi de la part du législateur, c'est-à-dire de notre Parlement, la possibilité d'avoir un casino sur la ville de Sedan. Et ça aussi, pour nous, c'est quelque chose de majeur, puisque les retombées économiques sont éminemment importantes pour ce genre d'outils de développement touristique en particulier.
Alors évidemment, il faut revenir sur l'économie, vous venez d'en parler. Alors dans la zone d'Ardennes Métropole, on a en ce moment pris connaissance d'un certain nombre d'entreprises qui venaient s'installer. Et je crois que c'est le cas aussi et surtout à Sedan.
Oui, tout à fait. Intelsia avait créé au début de l'année 2023 une cinquantaine d'emplois près du château fort, d'ailleurs, dans un endroit très beau qu'on appelle le Palais des Princes. Et ils sont en train d'installer 200 postes supplémentaires en plein cœur de ville, là encore. Et pour nous, c'est aussi très important. On aura créé en tout, sur la ville, 400 emplois cette année. C'est évidemment majeur. Et c'est une des explications également, évidemment, de l'augmentation de la population. L'emploi, c'est la source de tout, et en particulier du développement démographique.
Alors c'est vrai qu'on va suivre ça de près, Didier Herbillon, et puis aussi l'embellissement aussi de la ville, l'aménagement. Vous avez fait des efforts depuis plusieurs années pour améliorer en particulier le centre-ville de Sedan. Ça fait aussi beaucoup pour l'accueil des personnes, pour la beauté de la commune.
Bien sûr, la reprise urbanistique de la ville, qui maintenant est en cours depuis plus d'une dizaine d'années, est bien avancée. Il y a encore à faire, hein, en particulier sur l'habitat dans le centre ancien. Mais la ville a un tout autre visage aujourd'hui. Et l'urbanisme, c'est bien créer la qualité de vie. C'est la science, au fond, de vivre bien la ville. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Et visiblement, ça fonctionne. Le centre-ville est un lieu aujourd'hui de grande convivialité, de partage pour l'ensemble des usagers, que vous soyez à pied, à vélo ou même en voiture. Tout ça fonctionne bien. C'est un centre aussi sur lequel on peut maintenant organiser de grands événements, parce qu'auparavant, le centre-ville, les places étaient occupées par des voitures. Et d'ailleurs, se déroule actuellement le marché de Noël, qui rencontre un beau succès et des commentaires très sympathiques de la part des visiteurs. Donc, tout ça participe d'un ensemble, vous voyez, on a essayé d'appuyer un peu sur tous les leviers pour que cette ville redevienne attractive. Alors, là encore, hein, je reste prudent et modeste, parce que juger d'un renouveau, ça se fait sur au moins une petite décennie. Et le renouveau, aujourd'hui, il a trois ans, à peu près, vous voyez, mais pas encore beaucoup plus. Donc, il faut poursuivre nos efforts, il faut continuer à travailler et à rendre toujours cette ville plus jolie, plus attractive. Et on va engager, d'ailleurs, en 2024, un certain nombre de grands travaux supplémentaires.
On peut dire aussi, monsieur le maire, que même à quelques jours de Noël, bon, c'est vrai que ça coûte cher, les illuminations. Bon, peut-être que les communes sont obligées de réduire un petit peu pour faire réduire les factures d'électricité. Mais vous ne renoncez pas à ce que ces événements soient quand même l'occasion de joie, de retrouvailles, de famille. Et puis finalement, dans la ville, on voit un petit peu plus de lumière qu'avant.
Mais oui, vous savez, on a besoin, d'autant plus par les temps qui courent, où on connaît les difficultés économiques liées à l'inflation, où on connaît l'anxiété que se procurent les problématiques internationales qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la problématique israélienne et palestinienne. Enfin, tout ça est anxiogène. Donc, il faut vraiment donner cet esprit de Noël, rendre cet esprit de Noël à nos concitoyens et faire en sorte qu'ils oublient tout ça et qu'ils se retrouvent également en famille. Alors, il faut le faire, mais il faut aussi faire attention aux deniers publics. Et c'est ainsi, par exemple, que cette année à Sedan, eh bien, la totalité des illuminations sont en LED, donc qui coûtent beaucoup moins cher. La patinoire est une patinoire sans glace et donc artificielle et qui ne consomme pas d'énergie. Vous voyez, on s'adapte. On s'adapte, mais on conserve ce moment qui est un moment de partage, qui est un moment de convivialité, qui est un moment de rassemblement. On conserve toutes ces valeurs-là.
Eh bien, on peut vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année, Didier Herbillon. Et puis, bien sûr, que 2024 nous apporte encore de bonnes nouvelles. Et il y en aura certainement sur la démographie, sur l'implantation d'entreprises et sur la vitalité de Sedan, la cité de Turenne, à laquelle bon nombre d'Ardennais et bien au-delà sont attachés.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne fête à vous.
Merci
également,
Didier Herbillon.
Alors,
promesse, Didier Herbillon, on se retrouve en 2024 assez rapidement pour vos vœux de bonne année.
Pas de souci, ce sera avec grande joie.
Merci Didier Herbillon d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes maire de Sedan et vice-président d'Ardennes Métropole. C'est vrai qu'on peut se réjouir de voir la population de Sedan augmenter. On peut dire, Alexis, qu'on se retrouve demain, ce sera le 28 décembre. On avance dans les journées, on aura encore bien sûr nos rendez-vous. Les chroniques économiques sont maintenues, je crois, pendant les périodes de vacances.
Effectivement, on aura des questions d'économie à poser à Gérard-Marie-Henri demain jeudi.
On retrouvera Votre Maire nous parle, et puis on ira encore balader dans l'histoire avec celles et ceux qui nous entraînent du côté du mois de janvier 2024. En attendant, on vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF dans un instant, le journal de 19h.